Les îles Salomon, îles de la Terreur, par Jack London. L'existence est souvent dure pour l'homme blanc dans les îles océaniennes. Se divertir un brin devient parfois nécessaire. La mystification que je vais vous conter, et dont fait victime un nigo, ne manque pas d'humour, d'un humour un peu rude, comme il convient au décor ambiant. L'archipel des îles Salomon ne peut, je le reconnais, passer pour une succursale du paradis terrestre. Il est exact que la fièvre et la dysenterie y sont en promenade perpétuelle, qu'une foule de maladies cutanées, toutes plus répugnantes les unes que les autres, y prospèrent étonnamment, que l'air y est comme saturé d'un invisible poison qui s'insinue sous l'épiderme par la moindre écorchure ou coupure, voire par les simples pores de la peau, engendrant des ulcères purulents et fétides, et que plus d'un homme solide, s'il n'y a pas laissé ses os, est rentré chez lui à l'état d'épave. Non moins exact est-il que les indigènes des îles Salomon constituent une bande de sauvages comme il s'en trouve peu sur la terre, qu'ils sont doués pour la chair humaine, d'un joyeux appétit, et qu'ils ont la manie non moins invétérée de collectionner les têtes de leurs semblables. Leur plus haut instinct sportif consiste à surprendre quelqu'un au moment où il a le dos tourné, et à lui briser la colonne vertébrale à la base du crâne d'un coup habile de tomahawk. Je ne nierai pas davantage qu'en certaines de ces îles, à Malaita par exemple, les honneurs sociaux vont de pair avec le plus grand nombre de meurtres accomplis, que les têtes humaines servent couramment de monnaie d'échange, et que celles des Blancs ont une valeur supérieure à celle des autres. Tellement que des villages entiers se réunissent parfois, au nombre d'une douzaine, pour instaurer des souscriptions dont le montant, qui s'amplifie de lune en lune, ira aux guerriers assez heureux pour pouvoir présenter aux gardiens de la cagnotte une tête de blanc. Tous ces faits sont parfaitement véridiques. Mais il existe cependant de pires pays au monde, et j'ai connu des Blancs qui, après avoir vécu 20 ans aux îles Salomon, sentaient leur cœur s'attrister en les quittant. Ce qu'il faut à un civilisé pour pouvoir vivre aux Salomon, un laps de temps honorable, c'est tout d'abord d'avoir chance et prudence. C'est ensuite de porter, imprimée fortement dans l'âme, la frappe authentique du blanc impavide et dominateur. Voilà ce qui est avant tout nécessaire. Un pareil homme doit mépriser toute l'incontingence adverse, avoir en lui-même une confiance incommensurable, être bien persuadé par son orgueil de race qu'un seul blanc vaut en semaine plus que 1000 nègres et qu'il peut le dimanche en estourbir 2000. Voilà ce qui rend le blanc invincible et lui a frayé autour du monde une route royale. Il ne faut pas non plus que notre homme, dans ses rapports avec ses frères jaunes, ses frères noirs, s'amuse à couper les cheveux en quatre, qu'il se creuse le cerveau à comprendre toutes ces mentalités qui lui sont étrangères et qui ne peuvent qu'obscurcir la sienne propre. Il est le maître de la terre. Sur cette seule pensée doit se concentrer son esprit. Tel assurément n'était pas le cas de Bertie Arkwright. C'était un gentil garçon, un dandy à la dernière mode, et du point de vue intellectuel, un sensitif aux cordes trop fines qui vivait d'imagination. Le vol d'une mouche qui l'effleurait le faisait frissonner et pour 5 minutes le rendait rêveur. Au résumé, aucune maîtrise de lui-même. Fâcheuse idée pour ce garçon de s'en venir aux îles Salomon. Non pas, évidemment, qu'il eut l'intention de s'établir pour la vie. Mais un séjour de 4 à 5 semaines entre deux vapeurs satisferait la paix de vie primitive dont il sentait, assurait-il, le martèlement impérieux sur les fibres intimes de son être. Telles étaient du moins, en son langage entortillé, les explications qu'il se plaisait à donner entre deux sourires aux belles passagères embarquées comme lui sur le Macambo, courrier de Sydney. Ces aimables et piaillardes perruches qui s'en venaient en touristes fouler le sol de l'Australie faisaient cercle autour de lui quand il parlait, et toutes étaient plus ou moins amoureuses de sa gracieuse personne. Songez donc, ma chère, faire escale, 5 semaines durant, à ces terribilissimes îles Salomon, sur lesquelles courent, de par le monde, tant de récits d'aventures affreuses. Et quelle que fût leur admiration pour cet explorateur intrépide, pas une d'elles n'aurait, pour l'accompagner, quitté fût-ce 1 heure, le pont sans péril du Macambo. Il y avait à bord un autre personnage, auquel ces dames ne prêtaient en revanche aucune attention. C'était un petit bout d'homme, un gnome tout ratatiné, dont la peau flétrie avait la couleur de l'acajou, Sur le livre du bord, il était inscrit sous le nom de capitaine Malou. Et ce nom était bien connu de tous les indigènes des îles océaniennes. Ils ne le prononçaient qu'à voix basse, comme des conspirateurs craignant d'être entendus. Des Carolines à la Nouvelle-Zélande, on en usait pour faire peur aux enfants méchants. Le capitaine Malou avait affermé les sauvages et la sauvagerie, la fièvre et la vie rude, et tant par les balles des Snyder que par le fouet des contremaîtres, avait fait rendre aux têtes crépues, en holothurie et en bois de santal, en perles, en nacre et en écaille, en ivoire végétal, en noix de coco et en copra, des millions de dollars. Le petit doigt de la main droite du capitaine Malou, doigt qui d'ailleurs était cassé, contenait plus d'énergie et d'impavidité que toute la carcasse de Bertie Arkwright. Mais les belles dames du Macambo ne pouvaient, cela se conçoit, établir leur jugement que sur les apparences, et Mr. Arkwright était évidemment beaucoup plus représentatif que le capitaine Malou. Comme on approchait de Malaita, Bertie, allongé sur un fauteuil du pont non loin du capitaine Malou, entreprit celui-ci sur le dessein qu'il avait formé de faire connaissance, d'à peu près, avec la vie rouge et la vie saignante des îles Salomon. Le capitaine Malou approuva ce hardi projet, fort honorable pour celui qu'il avait conçu. Là-dessus, Bertie ajouta qu'il était admirablement armé pour se défendre le cas échéant, et afin de le prouver, il sortit de sa poche un pistolet automatique ultra perfectionné. « Voyez, dit-il, capitaine, je pousse en place le chargeur, rien de plus simple, et je mets au cran d'arrêt afin d'éviter tout accident. On ne saurait être trop prudent. Sous une pareille protection, je peux tenir tête à toute une armée de noirs. Chaque magasin me donne à la file 8 coups à tirer, le temps de presser 8 fois sur la gâchette. Et je remplace aussitôt le chargeur épuisé par un chargeur neuf. Voilà ce qu'on peut appeler une arme. » Ce disant, il braqua droit vers l'estomac du capitaine Malou le canon du pistolet. De ses yeux bleus et froids, le capitaine Malou, sans un battement de ses prunelles, fixa l'arme pointée vers lui et observa. « Vous seriez 1000 fois aimable de diriger ailleurs votre pistolet. »« Oh !» répondit Bertie, « aucun risque à courir, mon cher. Le cran d'arrêt donne toute sécurité. Sans quoi, vous pensez bien, n'importe, une arme est toujours dangereuse. »« Pas celle-ci, pour l'instant du moins, je vous le jure. Auriez-vous le trac à ce point? Je ne l'aurais jamais cru. »« Détournez-la quand même !» La voix du capitaine Malou était métallique, autoritaire et calme. Et ses yeux bleus ne quittèrent pas l'orifice du pistolet jusqu'à ce que Bertie Arkwright eût fait comme il le demandait. « Là, êtes-vous content maintenant ?» dit Bertie en souriant. « Mais il n'y avait rien à craindre et je vais vous le prouver. » Il appuya le canon contre sa tempe et fit mine de poser son doigt sur la détente. Le capitaine Malou tendit la main vers le pistolet et brusquement s'en empara. « Vous permettez, » dit-il, « je préférerais en faire moi-même l'expérience. » « À votre guise, » riposta Bertie avec chaleur. Tranquillement, le capitaine Malou dirigea l'âme vers la mer et pressa la gâchette. Une forte détonation se produisit et le sifflement d'une balle déchira l'air, tandis qu'une douille fumante tombait du chargeur sur le pont du navire. « Vous pouvez maintenant, » déclara le capitaine Malou, « reprendre votre pistolet. Il fonctionne à merveille. Un conseil seulement. Soyez désormais plus prudent au cours de vos expériences de vie rouge et saignante aux îles Salomon. » Car vous pourriez être pour vous-même un pire danger que les cannibales. » Bertie Arkwright était blême comme la mort. On eût dit que le sang s'était retiré de son visage et des cercles noirs entouraient ses yeux. Sa main tremblait quand il reçut le pistolet. Je m'étais trompé, balbutia-t-il en ricanant mollement. Et il se voyait étendu de tout son long sur le pont du Macambo avec un trou dans la tête par où fuyait sa cervelle. On fit escale devant la petite île d'Ougui afin d'y débarquer un missionnaire. Celui-ci prendrait place, pour gagner la terre, sur le cotre Aria, appartenant au capitaine Malou, comme beaucoup d'autres bateaux naviguant dans ces parages et qui devaient pousser jusqu'à Malaita. « Excellente occasion, mon cher, » avait galamment déclaré à Bertie Arkwright le capitaine Malou, « d'aller vivre un peu cette vie rouge qui vous tient tant à cœur. Au départ d'Ougui, vous participerez tout d'abord une 8aine du rang avec l'Aria et le capitaine Hansen, que j'ai l'honneur de vous présenter et dont vous serez l'hôte, à une croisière de recrutement sur les côtes de Malaita. L'Aria vous déposera ensuite à Guadalcanar, à ma plantation de rominges, où il vous sera loisible de passer une seconde semaine. Vous y serez reçu par mon gérant, M. Harrywell, à qui j'envoie à ce sujet un petit mot, par l'intermédiaire du capitaine Hanson. Je dis une semaine. Vous pourrez rester davantage, cela va de soi, si vous en avez le désir. Mais j'ai dans l'idée qu'après ces 15 jours écoulés, vous aurez soupé de Malaita et des têtes crépues, et vous viendrez nous retrouver à Tulagi pour nous faire part de vos impressions. Le commissaire des îles, qui se trouvait justement à bord du Macambo et gagnait à Tulagi le siège du gouvernement, s'avança vers Bertie Arkwright et lui demanda de bien vouloir, quand il débarquerait, accepter son hospitalité, curieux qu'il était lui aussi de connaître les émotions vécues de l'intrépide voyageur. « Et j'offrirai, conclut le capitaine Malou, une caisse entière de whisky à boire en son honneur. » Sur une mer d'été, pareille à du satin bleu, l'Aria, ayant laissé Ougi derrière lui, glissait mollement vers les hauteurs boisées de Malaita. Mais ce qui, beaucoup plus que le paysage, attirait fiévreusement l'attention de Bertie Arkwright, était le timonier debout à la barre, un noir qui portait autour du cou un collier fait de boutons de culotte et, planté à travers le nez, comme une broche à viande, un gros clou. Les trous multiples de ses oreilles s'ornaient d'un outil à ouvrir les boîtes de conserve, du manche cassé d'une brosse à dents, d'une pipe de terre, d'une roue en cuivre de réveil matin et de plusieurs cartouches vides de fusil. Sur sa poitrine était suspendue la moitié d'une assiette de faïence. Une quarantaine d'autres noirs, pareillement accoutrés, étaient étendus sur le pont. 15 d'entre eux formaient l'équipage. Le reliquat était composé de recrues de main-d'œuvre fraîchement enrôlées. Le second de l'Aria, Jacobs, un grand diable aux yeux noirs et à l'air grave, qui ressemblait plus à un professeur de collège qu'à un marin, expliquait à Bertie « Schwartz, voyez-vous, avait toujours passé pour un cerveau brûlé. » Il embarqua dans une baleinière pour Tulagi avec un équipage de noirs dont 4 y devaient être officiellement fouettés. Car vous n'ignorez pas, aux îles Salomon, le droit de fouetter les Noirs n'appartient qu'au gouvernement. L'opération eut lieu dans les formes prescrites par la loi. Mais au retour, la mer était assez agitée et le vent soufflait en rafale. Bref, la baleinière chavira, et comme par un fait exprès, Schwartz fut le seul noyé. Ce fut, cela va de soi, un accident. Un accident, vous en êtes bien sûr, sans aucun doute, et tout à fait malencontreux. La preuve en est que pareille mésaventure advint à Johnny Bellip, qui s'en tira heureusement sain et sauf. Il ramenait lui aussi un certain nombre de Noirs, qui venaient de recevoir le fouet à Tulagi. Les Noirs firent chavirer le bateau. Mais Johnny Bellip nageait aussi bien que les têtes crépues. 2 d'entre elles furent noyées, tandis qu'accroché d'une main un aviron, Mr. Bellip assommait de la crosse de son revolver quelques fouettés qui semblaient mal intentionnés à son égard. Encore un déplorable accident. Le capitaine Hanson, qui s'était approché, intervint. Oui, commenta-t-il, très fréquents les accidents de ce genre en ce fichu pays. Vous voyez bien, Mr. Arkwright, le timonier qui est au gouvernail. C'est un mangeur d'hommes endurci. Il y a 6 mois, sur ce même bateau, oui, sur le pont même où nous sommes, l'ancien capitaine, mon prédécesseur, a été près du mât de misaine, noyé accidentellement par ce grand coquin, aidé du reste de l'équipage. Bertie Arkwright sursauta. Noyé sur le pont, c'est impossible. Très possible, appuyait le second, si vous aviez vu le coup. La vérité m'oblige à ajouter, reprit le capitaine Hanson, que la noyade eut lieu d'un coup de hache. Mais c'est une habitude en ce qui concerne ce genre d'accident, de s'exprimer ainsi. N'en soufflez-moi personne. L'effet en serait désastreux pour les îles Salomon, et aucun blanc ne voudrait plus s'y risquer. Les colons y sont déjà si peu nombreux. C'est-à-dire, pour parler clair, que l'équipage a assassiné son capitaine. C'est à peu près cela. Il y avait à parler franc un peu de sa faute. Il ne se méfiait pas assez. Il avait le dos tourné quand ils lui ont réglé son compte. Mais, et l'équipage actuel? J'ai pris ce que j'ai trouvé de mieux, il est trié sur le volet. « Et vous avez gardé le même timonier ?»« Que voulez-vous, je n'en ai pas trouvé d'autre. »« Et puis en réalité, un autre ou celui-là. » »« Le malheur est que pour éviter les accidents de ce genre, les Blancs manquent de l'autorité nécessaire. »« Ce sont les Noirs que la loi protège contre nous, Il nous est interdit même attaqué de tirer le premier coup de feu, sans quoi l'acte de défense le plus légitime est qualifié crime, et pour un temps plus ou moins long, nous sommes mis à l'ombre aux îles Fidji. Voilà pourquoi il se produit tant de noyades accidentelles. Sur ces entrefaites, il fut annoncé que le dîner était servi. Bertie et le capitaine Hansen descendirent l'escalier intérieur et le second demeura sur le pont. « Ouvrez l'œil et le bon !» dit Hansen au second en le quittant. « Ah oui, qui, le noir qui est là-bas, m'inquiète depuis plusieurs jours. Il a tout l'air de méditer quelque mauvais coup. »« Compris, » répondit le second. Le dîner suivait son cours et le capitaine Hansen contait à Bertie Arkwright quelle fin déplorable fut celle du Scottish Chiefs. C'était, expliquait-il, le plus joli navire de l'archipel. Comme il allait jeter l'ancre devant Malaita, le timonier donna un coup de barre terriblement maladroit et le navire vint se briser sur un des récifs qui marquent l'entrée de la passe. Une nuée de pirogues accourut aussitôt et les têtes crépues qu'elles portaient se lancèrent à l'abordage. Il y avait 5 blancs seulement à bord du navire naufragé, avec un équipage de 20 noirs de Santa Cruz et de Samoa et 60 recrues. Des 5 blancs, un seul, le subrégargue, échappa à la mort. Le reste fut Kaikai. Kaikai. Excusez-moi, je m'oublie à parler patois. Je veux dire qu'ils furent mangés. Il y eut encore le James Edward, un autre navire qui n'était point laid non plus et qui possédait surtout une merveilleuse mâture. Mais juste à ce moment, on entendit par l'escalier un fort juron proféré sur le pont par le second. Un cœur de cri sauvage y répondit, puis 3 coups de revolver éclatèrent que suivit le bruit d'un lourd plongeon dans la mer. Le capitaine Hansen s'était aussitôt élancé dans l'escalier et tout en escaladant les marches 4 à 4, il avait tiré de sa poche son propre revolver. Bertie Arkwright en était comme médusé. Il monta l'escalier à son tour avec une grande prudence et hasarda timidement sa tête hors de l'écoutille. Il vit de là, sur le pont du navire, le second immobile, qui tenait à la main un revolver encore fumant, puis faisait brusquement volte-face comme si un danger le menaçait par derrière. « Un des noirs, » dit le second, d'une voix étrangement caverneuse, « est tombé par-dessus bord. Il ne savait pas nager et s'est noyé. »« Quel était cet homme ?» interrogea le capitaine Hansen. « Ah oui, qui ? Ah, très bien. » Bertie, qui avait repris courage, se risqua sur le pont et observa. « J'ai entendu 3 coups de feu. » Le second vira sur lui, comme un tourbillon, et grogna. « Des coups de feu ? Quel coup de feu ? Vous avez la berlue ? Pas un coup de feu n'a été tiré. Le noir est de lui-même tombé à l'eau. » Bertie Arkwright, de plus en plus décontenancé, semblait interroger du regard le capitaine Hansen et le prendre à témoin. Mais le capitaine ne sourcillait pas. Ses yeux demeuraient glacés. « Je croyais, » balbutia Bertie. « Des coups de feu ? » murmura le capitaine Hansen. D'un ton rêveur. Les avez-vous entendus, Mr. Jacobs ? Moi, pas du tout. Le noir est évidemment tombé à la mer par accident. Voulez-vous redescendre avec moi, Mr. Arkwright, que nous terminions notre dîner ? Bertie Arkwright regagna son siège et son assiette. Mais le mystérieux événement où il soupçonnait un drame rapide lui avait coupé l'appétit. Bertie dormit la nuit qui suivit dans la cabine du capitaine que celui-ci avait gracieusement offerte. C'était un réduit fort élégant mais effrayant entre tous, et un frisson lui courut dans le dos quand il y pénétra. La cloison à laquelle faisait face la couchette était décorée d'un râtelier garni de fusils. Sur la couchette elle-même, 3 autres fusils chargés étaient posés, et sous la couchette, il y avait un grand tiroir. Bertie, l'ayant tiré, le trouva rempli de cartouches, de boudins de dynamite et de plusieurs boîtes de détonateurs. Brrr. Bertie Arkwright décida de coucher tout habillé sur un canapé qui se trouvait là, fort à point. Il y avait aussi, dans un coin de la cabine, une petite table sur laquelle, comme par un fait exprès, était posé, bien en évidence, le journal du bord. De l'Aria. Bertie l'ouvrit et le feuilleta, et y découvrit de réchef des choses terribles. Il y lut comment, le 21 septembre précédent, 2 hommes de l'équipage avaient chu dans les flots et s'étaient noyés. Et comme ils savaient lire entre les lignes, ils comprirent ce que cela signifiait. Il lut encore comment la baleinière de l'Aria, assaillie par les Noirs, à Sulu le mois suivant, avait perdu 3 hommes, qui, sans aucun doute, furent Kaikai. Comment aussi le capitaine surprit un jour le cuisinier du bord, occupé à faire bouillir dans la marmite de l'équipage un ratat de chair humaine acheté en commun pour ce grand régal, a fouillé la dernière escale. Puis, c'était d'interminables récits d'attaques nocturnes, de ports suspects d'où l'on fuyait au crépuscule, d'embuscades dressées par les broussards dans l'intérieur des îles ou par les hommes d'eau salée dans les marais à palétuvier. Des notes qui se répétaient avec une fréquence aussi monotone qu'inquiétante avaient trait à une série de morts produites par la dysenterie. Deux blancs, notamment, avaient trouvé cette triste fin au cours d'une récente croisière effectuée par eux sur l'Aria. Le lendemain matin, quand il fut levé, Bertie Arkwright ne put s'empêcher de dire au capitaine Hansen qu'il rencontra sur le pont « Vous aviez laissé dans la cabine le journal de bord de l'Aria. J'en ai pris connaissance, vous savez. Fâcheux, très fâcheux !» s'exclama le capitaine Hansen d'un air ennuyé. « C'est un oubli, et ce journal n'aurait pas dû traîner ainsi. » « J'y ai trouvé, » poursuivit froidement Bertie, « un tas d'histoires de dysenterie qui, à parler franc, me paraissent plutôt louches. Il doit en être de ces dysenteries comme des noyades par accident. De la blague, hein ?»«
De la blague ?» protesta le capitaine Hansen. « Fichtre comme vous y allez. Le journal du bord, de la blague. »
Puis il sourit et avoua. « Vous êtes admirable de perspicacité, Mr. Arkwright. Les colons sont rares, comme je vous l'ai conté. » Et les risques de maladie les effraient moins que ceux d'une mort violente. Moi qui vous parle, j'ai donné en plein dans le panneau. Quand j'ai accepté d'être capitaine à bord de l'Aria, je croyais dur comme fer que mon prédécesseur était mort de la dysenterie. Je n'ai connu la vérité qu'après avoir signé, il était trop tard.
On ne peut pas toujours, commenta le second, parler de noyades accidentelles. Ça ne prendrait plus, alors on barille.
Le capitaine Hansen reprit son ancienne.
Il serait plus simple de reconnaître aux Blancs le droit de défendre leur vie. Mais je vous l'ai dit, quand l'affaire est portée à Tulagi, ils ont toujours tort.
Voyez le cas de la princesse. Il est typique. La goélette, outre un équipage de 15 matelots de couleur, de l'archipel de Samoa et des îles Tonga, avait à bord 5 Blancs. Le capitaine, le second, le maître de l'équipage, le supercargue et un agent du gouvernement. Le capitaine, l'agent et le supercargue s'étant fait conduire à terre, à Isabelle, sans avoir pris leur sûreté, ils furent incontinent massacrés. Puis la goélette fut prise d'assaut par une nuée de têtes crépues arrivées dans leur pirogue. Le maître d'équipage et les 15 matelots furent tués en un clin d'œil. Seul le second, s'étant saisi de 3 ceintures de cartouches et de 2 Winchester, put s'élancer à temps dans la mâture. Et de là, il déchargea sans arrêt sur les envahisseurs ses 2 fusils. Quand l'un d'eux lui brûlait les mains, il se servait de l'autre. Il abattit ainsi un nombre incalculable de noirs et nettoya merveilleusement le pont de la goélette. Les survivants, dégringolés par-dessus bord, et sans prendre le temps de se hisser dans leur pirogue, se sauvaient à la nage à toute vitesse. Mais le second continuait de tirer. Il ne s'arrêta qu'à sa dernière cartouche. Ce fut là, sans conteste, pour un seul homme, un bel exploit. Eh bien, savez-vous ce qu'il y gagna, le second ? 7 ans d'internement aux îles Fidji. En tirant sur les têtes crépues qui étaient dans l'eau, il avait, estima le tribunal, outrepassé ses droits. Alors la dysenterie, comme la noyade accidentelle, tue beaucoup de gens dans les îles. C'est dans de pareilles conditions un fichu métier que le nôtre. Je vous parle en ami, Mr. Arkwright. Vous ne me trahirez pas, j'espère.
Vous pouvez compter sur ma discrétion, capitaine.
Au cours de la journée, Bertie Arkwright, qui commençait à regretter sérieusement de s'être engagé dans cette aventure, se résolut à interviewer le timonier cannibale. L'homme lui dit s'appeler Soumassai, lui déclara qu'il avait passé 3 ans à travailler dans une plantation de Queensland, qu'il avait été à Samoa, au Fidji et à Sydney. Il avait navigué comme matelot sur des goélettes de recrutement à travers toutes les îles océaniennes. Et comme il avait parfaitement compris le jeu qui se jouait avec Bertie Arkwright, il ne se fit point prier pour reconnaître qu'il avait, au cours de son existence, mangé nombre de ses semblables. Combien, il ne s'en souvenait pas. Mais il y avait eu, dans la quantité, des noirs et des blancs. Les blancs étaient très bons. Ils avaient la chair beaucoup plus fine. Il avait gardé seulement un mauvais souvenir d'un certain blanc qui était malade quand il l'avait mangé. « Ma parole, s'écria-t-il. Moi, beaucoup malade aussi par la suite, et mon ventre avoir, pendant plusieurs jours, dansé la gigue. »
Tout frémissant d'horreur,
Bertie eut le courage, cependant, d'entreprendre son interlocuteur sur le chapitre des têtes coupées. Oui, Soumassaï en possédait plusieurs, en bon état de conservation, qui étaient cachées dans la terre. Elles avaient été, dans les règles, séchées au soleil et fumées. L'une d'elles, avec ses longues moustaches, était celle d'un capitaine de goélette. Il la vendrait pour 2 livres s'il trouvait amateur. La donner à moi était impossible. Mais il céderait les têtes de noix pour 1 seule livre. Il avait aussi quelques têtes d'enfants en assez mauvais état dont il se déférait pour 10 shillings. Un quart d'heure après, comme Bertie Arkwright était assis, mélancolique, sur le panneau d'une écoutille en songeant à toutes ces choses sinistres, un nègre vint avec un sans-gêne étonnant prendre place à côté de lui, tout contre lui. Le nègre avait la peau bizarrement malade. Bertie se leva comme mu par un ressort et s'en alla demander des explications au second. Le second lui déclara sans embâge que le noir était un lépreux.
Un lépreux? Mais la lèpre est contagieuse. Mon Dieu, oui. Que voulez-vous que j'y fasse?
L'homme paraissait sain quand il embarqua.
Gardez-vous seulement de le serrer de trop près.
Bertie dégringola l'escalier des cabines, se déshabilla, ficela un paquet des vêtements qu'il venait de quitter et jusqu'aux souliers, fit passer le tout dans la mer par le hublot. Puis il procéda sur tout son corps à des lavages antiseptiques qu'il renouvela le soir avant de se mettre au lit. Lorsque l'Aria vint en contact avec la terre et prit le mouillage dans un marais encadré de palétuviers, le capitaine Hansen ordonna de tendre, au-dessus de la lisse, une double rangée de fils de fer barbelés. « Précaution indispensable, expliqua-t-il à Bertie Arkwright, afin que le navire ne soit pas pris d'assaut comme tant d'autres par les têtes crépues. » Celles-ci, en effet, ne tardèrent pas à arriver dans leurs pirogues avec tout un arsenal de javelots, d'arcs, de flèches et de casse-têtes variés. Mais le capitaine Hansen commanda que tous les noirs qui voudraient être reçus à bord devraient auparavant laisser leurs armes dans leurs pirogues. Bertie Arkwright respira, quoiqu'il y eût quelques tricheries sur lesquelles le capitaine Hansen ferma bénévolement les yeux. De nombreuses affaires furent traitées et en échange d'un acompte qui leur fut remis sur leur travail futur, 25 recrues signèrent leur engagement. Puis, le coucher du soleil venu, les têtes crépues furent invitées à se retirer. Elles mirent peu d'empressement à obéir, et 12 d'entre elles s'obstinèrent, plus qu'il n'était convenable, à ne pas tenir compte des ordres réitérés du second. « Vous allez voir, chuchota le capitaine Hansen à l'oreille de Bertie Arkwright, si je vais les faire déguerpir. » Il tenait dans sa main un boudin de dynamite muni d'un hameçon. Le boudin de dynamite n'était en réalité qu'une inoffensive bouteille de chlorodine enveloppée et ficelée dans du gros papier d'où dépassait une fusée. Le capitaine Hansen alluma la fusée et piqua l'hameçon sur les reins d'un des nègres dans les plis de son lava-lava. Fou de terreur, le noir, sans même songer à se débarrasser de son lava-lava, se mit à pousser des cris d'épouvante et, la fusée lui sifflant et crachant derrière, s'élança dans la mer. Toutes les têtes crépues qui étaient encore sur le pont firent de même, culbutant par-dessus les fils de fer barbelés, bientôt teintés de sang. Bertie Arkwright était sidéré d'horreur, et le second, sans qu'on le vît, ayant fait exploser dans le vide, à l'arrière du navire, un vrai boudin de dynamite, Bertie ne douta pas que le nègre affublé de la bouteille de chlorodine n'eût été, au moment même où il touchait l'eau, pulvérisé. Devant n'importe quel tribunal, il en aurait juré. Le plus fâcheux est que les 25 recrues avaient, par la même occasion, sauté par-dessus bord et s'étaient vraisemblablement réfugiés dans la brousse avec leurs acomptes reçus. Allez donc leur courir après. Le capitaine Hansen et son second en étaient inconsolables. Ils se lamentaient à fendre l'âme. Que dirait de cette perte le capitaine Malou? Tellement qu'ils entreprirent de noyer leur chagrin dans des flots de whisky. Il n'y avait dans les bouteilles qu'ils vidaient que du thé froid. Ce qu'ignorait Bertie Arkwright, abasourdi de la quantité d'alcool vraiment phénoménale qu'il pouvait ingurgiter. Plus ils buvaient, plus les deux hommes, naturellement, étaient ivres, et ils discutaient passionnément entre eux pour décider si le nègre qui avait fait l'explosion serait consigné dans le journal du bord comme victime de la dysenterie ou comme un cas de noyade accidentelle. Finalement, ils s'endormirent et se mirent à ronfler. Bertie Arkwright comprit que la garde de l'Aria lui incombait une garde dangereuse, qu'il monta jusqu'à l'aurore, tant contre une attaque venant du rivage que contre une mutinerie possible de l'équipage. Le lendemain et les jours suivants, l'Aria demeura au mouillage,
attendant vainement le retour des recrues qui avaient pris la fuite. Capitaine et second continuèrent à s'arracher les cheveux et à boire du simili whisky à plein verre, laissant Bertie prendre chaque nuit sa faction. Il savait, proclamait-il tout haut, qu'il pouvait compter sur lui pour cette tâche, et de son côté, il se promettait bien à lui-même que s'il sortait vivant de cette incroyable tragédie, il rapporterait au capitaine Malou la honteuse conduite du capitaine Hanson et de son second. Le septième jour, l'Aria fut entourée, à l'aube, d'une flottille de pirogues dont les occupants manifestèrent l'intention d'escalader le navire. Bertie Arkwright, qui n'ignorait pas l'interdiction de faire parler la poudre à l'aveuglette, réveilla hâtivement le capitaine Hanson et le second. Et bien lui en prit. Les Noirs étaient les 25 recrues qui, d'elles-mêmes, demandaient à réintégrer le bord. Mieux encore, ils amenaient avec eux un nombre égal de recrues nouvelles qui signèrent incontinent leur engagement. « Dieu soit loué !» ne put s'empêcher de s'exclamer le capitaine Hanson. « Voilà une bonne besogne qui s'est accomplie d'elle-même. Qu'en pensez-vous, Mr. Arkwright ?»«
Je pense. » « Que voulez-vous que je pense dans ce dernier pays où tout se passe au rebours du sens commun ?»
De Malaita, l'Aria s'en fut, comme il avait été convenu, jeter l'ancre à Guadalcanar devant la plantation de Reminges. Bertie mit pied à terre avec un soupir de soulagement et serra avec effusion la main du gérant, Mr. Harriwell, qui l'attendait.
« Vous débarquez dans un mauvais moment, » dit Mr. Harriwell. « J'ai depuis quelque temps remarqué chez les Noirs des signes de révolte, mais je ne crois pas personnellement que le danger soit sérieux. »«
Ah ! Et combien occupez-vous de Noirs dans la plantation ?» demanda Bertie Arkwright, le cœur angoissé.
« 400 !»
répondit joyeusement Mr. Harriwell.
« C'est quelque chose, savez-vous, une belle équipe. »«
Oui, j'entends bien.
S'ils venaient réellement à se révolter,
nous ne sommes que 4 blancs en vous comptant. »
« Mais n'importe, nous en viendrons à bout, avec votre aide, Mr. Arkwright, cela va de soi. »
Sur ces entrefaites, arriva un certain MacTavish qui faisait office de magasinier. À peine prêta-t-il attention à Bertie qu'on lui présentait.
« J'ai l'honneur, Mr. Harriwell, déclara-t-il hâtivement, de vous donner ma démission. Je ne puis demeurer plus longtemps. Je suis un homme marié, vous le savez comme moi, et il se prépare ici du vilain. » Aussi clairement que je vois votre nez au milieu de votre visage. Les Noirs vont se soulever un jour ou l'autre, et nous reverrons les honneurs de Ohono. »
Mr. Harriwell parlementa longuement avec le magasinier, qu'il décida de terminer son mois.
« Les horreurs de Ohono, qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Bertie Arkwright.
Il fait allusion, expliqua le gérant, à un petit massacre qui eut lieu l'an dernier à la plantation de ce nom, dans l'île Isabelle. Les Noirs tuèrent les 5 blancs qui dirigeaient la plantation en question, ainsi que le capitaine et le second d'une goélette qui était descendu à terre. Mais j'ai toujours dit qu'on était imprudent à Ohono. Jour et nuit, nous sommes ici sur la défensive. Veuillez venir avec moi, Mr. Arkwright, que je vous montre un peu la vue splendide dont on jouit du balcon de la véranda. Bertie ne songeait guère à admirer le paysage. Il était trop occupé à se demander quel prétexte honorable il pourrait bien invoquer pour filer le plus tôt possible à Toulagi, chez le commissaire des îles. Il était encore plongé dans ses réflexions quand un coup de fusil éclata dans son dos tout près de lui. Au même moment, il se sentit saisir par le bras et crut que ce malheureux bras se disloquait tellement Mr. Harriwell mettait de zèle à tirer son eau dans l'intérieur de la maison. « Vous l'avez échappé belle, camarade, » dit le gérant. « Vous n'êtes pas blessé, au moins ?» Il se mit à tâter et tripoter Bertie par tout le corps. « Je ne saurais trop, » gémissait-il. Vous présentez mes excuses pour un aussi fâcheux accident. Jolie façon méritait de recevoir un étranger. Et en plein jour encore, je n'aurais jamais soupçonné un pareil attentat. Bertie était pâle comme la mort. C'est ainsi, reprit implacablement MacTavish, qu'ils ont eu la peau de mon prédécesseur. Nom de Dieu, un homme magnifique. Sa cervelle éclaboussait toute la véranda. Avez-vous remarqué cette tache sombre à la dernière marche de l'escalier? On a eu beau la laver, jamais on n'a pu la faire disparaître. « Adieu, je vous laisse. »«
Voyons, voyons !»
déclara Harriwell avec énergie.
« Écartons ces pénibles sujets. Essayez-vous à cette table, Mr. Arkwright.
Vous ne refuserez pas un cocktail ?» Bertie était tout à fait à point pour ingurgiter l'exquise boisson que le gérant achevait de confectionner à son intention. Faisant effort sur lui-même, il portait cependant la paille à sa bouche quand un homme aux culottes de cheval et molletière fit son apparition. « Allons quoi? Qu'y a-t-il encore ?» interrogea le gérant. « Vous en faites une tête, Mr. Brown. Est-ce que la rivière remonte vers sa source ?»« Au diable, la rivière !» répondit l'homme. « Les nègres m'inquiètent beaucoup plus. Tout à l'heure, l'un d'eux est sorti soudain des roseaux à 4 mètres de moi et m'a canardé. » Il était muni d'un Snyder et tirait la crosse sur la hanche. J'ai par miracle échappé. « Mais où s'est-il procuré, ce Snyder ?»« Ah, mille pardons, Mr. Arkwright. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Mais telle était encore mon émotion. »« Mr. Brown, » expliqua le gérant, « est mon homme de confiance. Un troisième cocktail. Et noyons-y nos soucis. »« Volontiers, » acquiesça Mr. Brown. « Mais où le nègre avait-il pris le Snyder ? Voilà qui me tarabuste. »« J'en suis surpris autant que vous, » déclara Mr. Harriwell avec une ombre d'emportement dans la voix. « Hormis les nôtres, pas un fusil ne sort jamais de la maison, où toute la provision est sous clé. » Mr. Brown sourit d'un air incrédule. « Vous ne me croyez pas. Venez avec moi constater si je mens. » Mr. Harriwell s'est enlevé, se dirigea vers son bureau où il montra du doigt, dans un coin de la pièce, une grande caisse poussiéreuse. Les serrures en semblaient intactes, mais Mr. Brown, s'étant incliné, les souleva du doigt. Le gérant eut un sursaut et fit bousculer le couvercle. La caisse était vide. Les trois hommes se regardèrent mutuellement en silence. Harriwell se laissa choir sur une chaise anéantie. Brown se prit à jurer. « Par l'amour Dieu ! Il est impossible de se fier au domestique d'intérieur. C'est l'un d'eux qui se sera subrepticement saisi des clés que vous aurez laissé traîner, Harriwell. » « Méchante affaire, » avoua le gérant en faisant la moue. « Mais nous reprendrons les fusils à ces sales bêtes. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. » « Voulez-vous avoir l'obligeance, Mr. Brown, de préparer une 50aine de boudins de dynamite ?»« À la première occasion, comme nous ignorons les vrais coupables, nous taperons dans le tas. »« Allons, messieurs, gardons-nous forts et ne perdons point l'appétit. Le dîner est servi. » Il y avait sur la table un plat de riz au curry et une omelette. Bertie n'aimait point le riz au curry. Il se rabattit sur l'omelette, dont il se servit une ample assiette et qu'il déclara excellente. Son curry terminé, Harriwell s'attaqua à son tour à l'omelette. Il en goûta une bouchée qu'il recracha bruyamment. « Attention !» s'écria Mr. Brown d'un ton sinistre. « C'est la seconde fois que le cuisinier nous fait le coup. » Harriwell continuait à graillonner et à cracher. « Quelle seconde fois ?» interrogea Bertie en frissonnant. « La seconde fois, par Dieu, que le coquin essaye de nous empoisonner. Il faudra sans tarder lui casser la tête. »« C'est de cette façon, » commenta Brown. Cocap Mara, le comptable de la compagnie, a trouvé la mort dans des souffrances indicibles. On l'entendait hurler, m'a tout rassuré, à 5 kilomètres à la ronde. Je vais toujours, décida Harriwell, faire mettre au fer le cuisinier. Nous avons heureusement découvert à temps le poteau rose. Bertie demeurait assis, totalement paralysé. Sa figure décolorée était semblable à une cire. Il essaya de parler, mais rien ne sortit de son gosier qu'un grouillement incompréhensible. « Et vous en avez mangé ?» beugla Brown d'une voix tonnante. Au bout d'une demi-minute d'attente, Bertie Arkwright retrouva soudain l'usage de la parole, comme un plongeur qui sort de l'eau et reprend son souffle. « Évidemment, j'en ai mangé » s'écria-t-il. « Vous l'avez vu aussi bien que moi ?» L'affreux silence recommença, tandis que Bertie lisait son destin dans les yeux de ses deux compagnons. « Il se peut, après tout, que je me trompe, » murmura Harriwell. « Ne nous désolons pas avant d'être fixés. » Brown alla vers la porte et appela rudement le cuisinier. Celui-ci fit son entrée d'un air boudeur. Il avait en guise d'ornement des épines plantées à travers le nez et des bouchons enfilés dans les trous des oreilles. « Dis donc, toi, oui, oui, » rugit Harriwell en montrant le plat d'un doigt accusateur. « Qu'est-ce que toi avoir mis là-dedans ?»« Oui, oui, » effrayé, leva en guise de réponse son bras devant ses yeux et flageola sur ses jambes. « Moi, se sera-t-il, avoir mis rien que de bon. L'omelette est très très bonne pour faire caille-caille. Alors toi, en manger tout de suite devant nous, » ordonna Harriwell. C'est, glissa-t-il dans l'oreille de Bertie, la suprême épreuve. Et Harriwell, ayant empli une cuillère de l'omelette suspecte, fonça droit vers le cuisinier qui, les dents serrées, se précipita dehors en une fuite affolée. « La question est tranchée, » prononça Brown avec solennité. « Il ne veut pas en manger. » « Brown, » reprit Harry Well. Dès que vous pourrez poser la main dessus, vous le mettrez au fer, comme j'ai dit tout à l'heure.
« Tout va bien, Mr. Arkwright. Je l'expédierai à Toulagi, où le commissaire prendra l'affaire en main. Si vous mourrez, vous pouvez être sûr qu'il sera pendu. »«
Mais, messieurs, » s'exclama Bertie désespéré, « ne pas mourir vaudrait encore mieux pour moi. »
Brown se précipita dehors à la poursuite du noir, tandis qu'Harry Well haussait les épaules d'un air de pitié.
« Et que veux-tu que j'y fasse, mon pauvre vieux? C'est un poison indigène dont le noir se sera servi. » Et pour ce genre de poison, il n'y a pas d'antidote connu.
De grâce, calme-toi un peu, il faut te résigner à ton sort.
À ce moment, deux détonations retentirent au dehors, et Brown ne tarda pas à reparaître, tenant à la main son fusil encore fumant.
Je l'ai, dit-il en se rasseyant tranquillement à table, déniché dans un cocotier où il se cachait parmi les feuillages.
Il est tombé mort devant moi, une attaque soudaine de fièvre maligne.
Mais, et moi ?
Hurlait Bertie Arkwright.
« Quoi, messieurs, pas le moindre secours ?»«
Aucun antidote contre les poisons indigènes, » répéta Mr. Harry Well.
« Aucun antidote, » rétorqua Brown, « sauf le genièvre. »«
Ah oui, c'est vrai, le genièvre. Et moi qui n'y songeais pas.
Je suis tellement bouleversé. »
Mr. Harry Well alla quérir incontinent une bouteille de la rude liqueur, dont la teneur en alcool est si forte, et en versa un grand verre qu'il tendit à Bertie Arkwright.
« Buvez cela, mon cher, et buvez vite !» C'est un peu dur au gosier, évidemment, mais il faut boire pur.
Allons, du courage.
Il y va pour vous de la vie.
Bertie fit comme il lui était prescrit et absorba le genièvre en étouffant et en toussant. Sous la morsure de l'alcool dans son gosier, des larmes lui ruisselaient des yeux. Harry Well lui tâta le pouls et prit sa température en hochant la tête. Pouls et température montaient en effet sous l'influence du genièvre que Bertie buvait sans arrêt. Le pauvre bougre ne pensait pas à cette explication, si simple cependant, et lui-même, en se cachant, se tâtait le pouls sous la table. La tête commençait à lui tourner sérieusement et il entendit, comme dans un rêve, Harry Well et Brown discuter encore sur le point de savoir si la fameuse omelette était vraiment empoisonnée.
« Après tout, nous n'en savons rien !» criait Harry Well.
« Si le cuisinier n'était pas mort, » ripostait Brown, « de gré ou de force, on en eût fait sur lui l'expérience. » « Mais ces sacrées fièvres vous suppriment un homme en un clin d'œil. »
MacTavish entra en trombe.
« Hé là, vous autres, prenez garde à vous. Les Noirs ont cerné la maison. Ils sont tous armés des Snyder volés et tentent de s'infiltrer dans la cuisine. »«
Venez avec moi, Mr. Brown, et tirons les premiers. Il vaut toujours mieux commencer les hostilités. »«
Prenez aussi quelques boudins de dynamite et allumons chacun un cigare. »
Les deux hommes sortirent tandis que Mr. Harry Well reprenait tranquillement son repas interrompu et que Bertie, palpant son pouls, le trouvait accru de 5 pulsations. Soudain, une détonation épouvantable retentit. La maison en trembla jusqu'au toit et le plancher parut se soulever. La vaisselle se brisa sur la table et la grosse horloge s'arrêta. Du coup, Harry Well se leva et, empoignant son Winchester, sortit pour joindre les combattants. Il y eut une fusillade en règle, accompagnée de cris et de hurlements démoniaques, puis tout se tut. Quand les trois blancs revinrent dans la grande salle, Bertie n'y était plus. Il s'était traîné jusqu'au bureau de Mr. Harry Well, et après s'être barricadé derrière un rempart de tables, de chaises et de cartonniers entassés, s'était affalé sur le plancher en un cauchemar imbibé de genièvre où il mourait 1000 morts en écoutant la bataille qui faisait rage au-dessous de lui. Il passa dans sa forteresse la fin de la journée et toute la nuit qui suivit. Le lendemain matin, il se risqua à en sortir, encore vacillant et la tête lourde, du genièvre absorbé. Il trouva que le ciel était toujours bleu, avec Dieu sans doute dans son paradis. Quant à ses hôtes, ils n'étaient ni morts ni blessés, mais bien vivants, comme lui-même. Le cuisinier empoisonneur avait réintégré sa cuisine. De la véranda, on voyait des escouades de nègres aller et venir, bien en ordre, sous la conduite des contremaîtres. Mr. Harry Well, en lui tendant la main, lui demanda s'il avait bien dormi, et s'il comptait prolonger quelque temps son séjour. Mais il répondit que des affaires pressantes l'appelaient à Toulagi et qu'il l'embarquerait le jour même sur l'Aria. À Toulagi, un peu lassé, déclara-t-il, des fatigues de sa croisière, il ne quitta point le jardin du commissaire des îles. Puis il retrouva sur le vapeur du retour et le capitaine Malou et les mêmes belles dames qu'à l'aller. Très entouré, cela va de soi, il éclipsa de réchef le vieux capitaine, comme le soleil fait des étoiles, et redevint pour le beau sexe un héros accru. Durant de longues heures, avec une intarissable faconde et une indéniable sincérité, il conta dans tous les détails
à son palpitant auditoire les scènes affreuses dont il avait été témoin, les tragiques périls de mort qu'il avait personnellement courus. Quant au capitaine Malou, il avait, avant de lever l'ancre, expédié de Toulagi deux caisses du meilleur whisky écossais qui se peut trouver sur le marché, l'une à l'adresse du capitaine Hansen, l'autre à celle de Mr. Harrywell. Car il était incapable de décider, entre les deux hommes, lequel avait su donner à Bertie Arkwright la plus splendide vision de la vie rouge aux îles Salomon. Ainsi s'achève « Les îles Salomon, îles de la terreur » par Jack London.